Guinée orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Boutoumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de l'esprit vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. La presse congolaise appelée à exercer son quatrième pouvoir dans l'intérêt supérieur de la nation. Elle doit s'abstenir d'attiser le feu avant, pendant et après les élections en RDC. C'est la demande formulée par les chefs de l'État au patron des maisons de presse qu'il a consulté jeudi dernier au Palais de la Nation. Le président de l'UNPC a indiqué que le chef de l'État les a exhortés à défendre le pays contre toute velléité séparatiste. Selon vous, comment la presse peut-elle jouer ses rôles efficacement? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines, mis en monde par Hippolyte Kapanga. Berry Franklin Luchaka est à la réalisation et Pierrot et la Mégie vous la présentent sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir dans notre échange de ces jours à l'issue des concertations entre le chef de l'État et les patrons des maisons de presse ici à Kinshasa. C'était le jeudi dernier. Le chef de l'État a invité la presse de s'abstenir d'attiser le feu avant, pendant et après les élections. Comment la presse peut-elle jouer ses rôles d'une manière efficace? C'est la question au centre de notre échange. Nous allons nous recevoir tout à l'heure Joseph Alain Kabongo, secrétaire exécutif de l'Observatoire de liberté de la presse en Afrique, avec qui nous allons nous échanger. En attendant, plusieurs personnes sont chez les standards qui voudraient bien intervenir en direct, mais beaucoup de messages ont été aussi déposés sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Nous avons Aloïs qui nous appelle de Masuka dans la province du Kasaï occidental, c'est dans le territoire de Luida. Aloïs, vous nous avez rejoint dans ce débat. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour m'avoir associé à cet échange. Et je félicite sincèrement la Radio Okapi pour le travail à partir. D'entrée de jeu, je voudrais commencer par présenter mes très grandes désolations à notre gouvernement pour le simple fait que il y a un grand délaissement de certaines grandes agglomérations de ces pays qui font d'ailleurs la fierté de ces pays parce que vous comprendrez ensemble avec moi que jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des milieux tels que moi, où je suis en train d'intervenir, nous sommes privés totalement du droit de l'information. Jusque-là, il n'y a même pas une petite chaîne qui émet sur place à Masuka. Nous souffrons beaucoup plus. On a émis beaucoup de vœux pour que, des fois, on puisse avoir quelque chose comme une petite radio pouvant même prendre les relais de la radio Okapi. Mais cela n'arrive toujours pas. Ça, c'est une désolation de notre part. Alors, pour revenir... Allô?
Oui, allez-y. Aloïs, vous êtes sur les antennes, on vous écoute.
Oui, certainement. Pour revenir au sujet qui fait le débat du jour, je pense que, selon mes petites analyses que je suis en train de faire, entre les quatre pouvoirs qui exercent dans notre pays, s'agissant là du pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, ainsi que le pouvoir, le quatrième pouvoir que la presse, nous devons être très sincères, comme je l'ai dit sur votre page Facebook, les deux pouvoirs, s'agissant du médias ainsi que du pouvoir législatif, qui exercent, si nous pouvons être sincères, leur service tel qu'il se doit. Malgré les petites difficultés qui se posent donc dans l'exercice de certains des méthodes, surtout en ce qui concerne donc les médias, n'est-ce pas? Vous m'écoutez, monsieur le journaliste?
On vous suit, vous êtes en direct. Je crois que vous avez des difficultés parce que vous n'avez pas de retour, hein, n'est-ce pas, à Masuka. Il n'y a pas moyen de capter Radio Capi là-bas. Je crois que vous nous avez suivi sur la page Facebook. C'est là que vous avez posté votre commentaire. Et là, nous vous avons pris en direct à Loïs. Vous êtes en direct. Votre inquiétude, d'abord, c'est le fait qu'une grande cité comme Masuka ne puisse pas avoir un média. C'est ça, le problème. Et pourtant, l'article 24 de la Constitution consacre la liberté et les droits à l'information. Et vous auriez souhaité voir une radio émettre sur place à Masuka, mais déjà, vous estimez que la presse fait son travail en dépit des difficultés qui sont rencontrées. Merci beaucoup, Aloïs, de nous avoir appelé de Masuka dans les territoires de Luisa au Kassai occidental. Comme je le disais tout à l'heure, notre invité est avec nous dans ce studio, Joseph Alain Kabongo. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. OLPA, c'est ça.
Merci, c'est OLPA.
Voilà. Et le chef de l'État, en recevant les patrons de maisons de presse, a invité la presse à jouer son rôle comme quatrième pouvoir, n'est pas attisé le feu avant, pendant, après les élections, n'est pas, comme le disait le président de l'UNPC, les chefs d'État exhortaient les journalistes à défendre les pays contre toute vérité séparatiste. Alors pour nous, dans cet échange, c'est comment arriver à une manière plus efficace à permettre à la presse de jouer ce rôle. Mais d'abord, au niveau d'OLPA, comment vous jugez l'appel du chef de l'État à l'endroit des médias?
Bon, au niveau de OLPA, nous ne sommes pas surpris par cet appel. Nous trouvons que c'est dans l'ordre normal des choses. La presse devrait jouer son rôle dans la sensibilisation, la formation de la population, surtout pour des grandes échéances comme les élections. Mais demander à cette presse de faire preuve de neutralité, d'impartialité, il faudrait aussi savoir dans quel cas on se trouve. Dans notre pays, d'abord les acteurs politiques, les chefs de l'État et lui-même un acteur politique, ils tolèrent de moins en moins la critique. Cette presse dont on voudrait qu'elle soit impartiale et neutre, c'est celle qui doit juste véhiculer les idées d'un seul camp politique, non? Donc la presse doit en principe favoriser la contradiction. Mm-hmm. Il faudrait que la classe politique accepte les critiques de la presse, et surtout les critiques constructives. Et c'est en ce moment que la presse jouera réellement son rôle. Mais demander juste à la presse de faire preuve d'impartialité en se disant peut-être que quand la presse me critique moi, elle ne veut pas qu'on aille de l'avant. Là, cet appel-là, je ne sais pas si c'est un appel.
Par le fait aussi que nous avons le maison, si on peut parler aujourd'hui en termes de médias, que nous avons la plupart des médias sont tenus par des acteurs politiques, et dans ces contextes, il sera difficile à cette presse de se mettre au milieu du village, comme on peut dire, parce qu'il y a cette pesanteur politique sur l'exercice même de la profession.
Oui, au-delà de médias qui sont instrumentalisés par les politiciens. Nous savons que c'est la grande majorité. Il y a également les médias communautaires. Il y a également cette presse que nous avons connue dans ce pays dans les années 90. C'est la même presse qui nous a... qui a beaucoup milité pour le processus de démocratisation de ce pays. Mm-hmm. Donc, ce sont les mêmes journalistes. La plupart sont encore vivants. Je ne crois pas que cette presse-là ne peut pas jouer son rôle. Donc, malgré le fait qu'il y a toujours des politiciens derrière plusieurs médias, mais il y a toujours une poignée de médias ou des journalistes qui peuvent continuer à jouer leur rôle, mais il faudrait que la liberté de la presse soit réellement garantie.
Et là, quelle est la responsabilité du pouvoir public, du chef de l'État qui a invité le média? Parce que là, il y a la responsabilité des médias, d'une part, en leur demandant de jouer leur rôle correctement, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi la responsabilité du politique et du pouvoir public. À quel niveau se situe-t-elle pour faciliter effectivement à la presse de faire ce travail?
Oui, la responsabilité des pouvoirs publics, d'ailleurs les dispositions constitutionnelles que vous avez énumérées tout à l'heure, il y a la loi portant modalité d'exercice de la liberté de la presse, il y a la loi sur les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Si toutes ces lois sont d'abord respectées par les dirigeants eux-mêmes, je pense que la presse pourrait travailler dans des conditions plus ou moins adéquates. Mais présentement, ce sont les mêmes autorités qui violent les lois. Vous savez, ici, dernièrement, un membre de la commission sur la TNT. Il y a un auditeur qui lui a demandé à propos de la coupure des signaux. Qu'est-ce que vous dites des médias? Il a dit que je n'étais pas venu ici pour parler des coupures des signaux. Vous comprenez que ce sont des questions embarrassantes. Et les solutions, jusque-là, aucune solution n'est envisagée. Tout dernièrement, le ministre de la Communication vient de lever une mesure qui frappait la radio catholique Elikia. Et je vous apprends que cette mesure, ce n'est pas le ministre qui a notifié RTCE. C'est plutôt le ministre qui écrit en transmettant copie au CESAC. Et c'est cette copie du CESAC qui a été remise à la radio catholique Elikia pour que celle-ci reprenne ses émissions. Alors quand on s'est posé la question qui a coupé les signaux, on a fait marcher ces journalistes. Ils sont partis tantôt auprès des services de sécurité, ils arrivaient ici au Sénépanou, ils arrivaient là-bas au Sénépanou, mais c'est ça qu'a dit qu'ils faisaient des médiations. Vous comprenez que l'autorité ou les responsables politiques ont vraiment un grand rôle à jouer en garantissant la liberté de la presse. Et c'est en ce moment que la presse jouera réellement ce rôle-là de contre-pouvoir.
Mais est-ce que la presse va-t-elle croiser les bras pour dire qu'il faudrait que le politique nous accorde notre droit, ou que c'est pourquoi maintenant il y a cette responsabilité de la presse elle-même dans ce droit de cette liberté, s'il faudrait utiliser le terme?
Non, la presse ne croise pas le pouvoir. La presse, c'est que la plupart des lois qui sont adoptées en faveur ou au profit de la presse, ce sont d'abord les médias eux-mêmes, les acteurs de médias eux-mêmes qui se réunissent, qui initient ce type de projet jusqu'à le faire adopter ou avaliser auprès des instances législatives. Donc la presse ne croise pas les bras, et la preuve, il y en a toujours. Il y a toujours des médias critiques aujourd'hui qui continuent à critiquer malgré les menaces qu'elles reçoivent, malgré le harcèlement et autres intimidations. La presse ne croise pas les bras, elle continue à se battre, mais dans la mesure du possible.
Voilà, comment arriver à permettre à la presse de jouer son rôle d'une manière efficace comme quatrième pouvoir, selon les souhaits du chef de l'État? Franck, vous nous avez rejoint dans cet échange, vous êtes à Vienne, vous êtes avec nous. Franck, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Firo, bonjour aussi à l'invité, à tous les amis avec qui nous allons échanger.
On vous écoute, Franck, comment la presse peut arriver à répondre à ces souhaits du chef de l'État?
Oui, merci beaucoup. Je crois que l'invité a déjà placé les bases nécessaires pour la suite de ce débat. En principe, je ne pouvais même plus argumenter, mais comme l'occasion m'est accordée, je me permets encore de m'expliquer par rapport à ce qu'ils ont de dire là. Monsieur le journaliste, vous, de la presse, vous savez que vous êtes l'arbre du village, le milieu du village. Vous êtes la voix de sans voix, vous êtes l'avocat des faibles, donc... Ça, presque dans un pays qui se respecte, rien ne peut marcher. Pour moi, personnellement, je trouve que le débat d'aujourd'hui ne doit pas seulement se réduire à l'intention. Donc, on n'est pas là pour balancer la préoccupation de notre chef d'État que nous respectons. Sa préoccupation, en tant que chef d'État, est légale et responsable. Cela est conforme à ses charges régaliennes. Puis, en exprimant, je me base à l'article 24 de notre Constitution qui dit ceci: toute personne a droit à l'information, la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la liberté écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et de tout droit de fruit. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Donc, je peux seulement m'arrêter jusque-là. Monsieur le journaliste, je crois que quand on est en train de gérer un État qui se respecte, on ne peut pas demander aux gens de ne pas voir comment ça se fait. C'est comme si quelqu'un a une bouteille d'eau sur ses mains, il laisse tomber la bouteille, ça se casse, et on demande aux gens de ne pas se rendre compte que la bouteille s'est cassée. Je crois que on n'est plus à cet âge-là. Donc, moi, personnellement, j'aimerais que ce que le chef d'État vient de dire là, que ça soit aussi bien récupéré par tous les organes de presse et de leur propre médias d'abord. Parce que dans un pays, si la répartition des médias, si la presse ne sait pas faire son travail de manière équitable, mais il y aura toujours des contrepoids. Oui, par rapport à ce que l'invité vient de dire, la presse n'est pas là seulement pour promouvoir la visibilité d'un groupe au détriment de l'autre. La presse est là aussi d'abord pour promouvoir les débats contradictoires. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Donc, il y a des organes de presse qu'on a instrumentalisés, il y a des organes de presse qui sont pris en otage, ils arrivent même à faire passer une médiocrité pour une excellence. Et quand il y a un autre organe qui arrive à faire de l'équilibre, comme ils n'ont pas le pouvoir, comme ils n'ont pas la main libre avec des décisions, ils sont soit frappés, ils sont suspendus, leur couture est coupée, quoi. Moi, je crois que ce que le chef vient de dire, en principe, ça devrait être ou ça doit être respecté. Mais je crois que nous devons nous poser des questions. Est-ce que ça serait seulement respecté par ces organes de presse qui travaillent pour équilibrer ou bien aussi par tous ces organes de presse qui ne font que passer certains actes de médiocrité pour des excellences? Ça, c'est l'une des questions. Puis de deux, dans un pays qui se respecte, on doit aussi arriver quand même à honorer la profession journalistique. Mais chez les journalistes, mais nous savons parfois dans quelles conditions certains journalistes travaillent là. Nous savons parfois dans quelles conditions certains arrivent même à modérer certaines émissions. Donc moi, je crois qu'il y a encore du travail que vous devez faire. Et cette prévention ne devait pas seulement venir maintenant pendant la période des campagnes électorales, parce que l'objectivité de la presse, le professionnalisme de la presse, ça doit accompagner son travail. Avant, pendant et après les élections, même en dehors des périodes préparatoires des élections. Sinon, si on a affaire à une presse qui n'est pas bien préparée, si on a affaire à une presse qui ne répond pas aux critères déontologiques professionnels, mais au lieu d'informer les citoyens, la presse n'aura comme mission que d'intoxiquer. Et c'est ce qui est maintenant chez nous, parce qu'il y a tellement la politisation des organes de la presse, parce que même au niveau de certaines chaînes, parfois des chaînes d'obédience nationale et étatique, nous savons parfois qu'il y a des émissions qui sont modérées pour vilipender certains autres candidats. Est-ce que c'est seulement maintenant qu'on va maintenant demander à ces gens de se remettre en ordre? Je crois que nous voyons ce qui se fait chez nous. Nous ne sommes plus des enfants, nous pouvons dire ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas.
Voilà, merci,
nous sommes conscients que cette interpellation vient de lui-même, les garants suprêmes de la nation. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez évoqué l'instrumentalisation de la presse, la politisation de médias. Dans ces conditions, il sera difficile à cette presse de pouvoir promouvoir la liberté, l'accès de la parole à chacun et les débats contradictoires. Mais vous avez aussi évoqué les conditions de travail des journalistes qui ne peuvent pas, des fois, leur permettre de rester objectifs et professionnels. Merci beaucoup, Franck. Il y a Didier Serge Moussanga de Kinshasa qui nous a écrit. Il dit, c'est important, c'est un rappel du chef de l'État. Les journalistes, c'est bien qu'ils ne soient pas, qu'ils ne se transforment pas, mais il ne faudrait pas qu'à l'appel du chef de l'État, les journalistes parviennent à se transformer en fidèles d'une église qui n'auront pour rôle que d'acclamer. Disons aussi que certaines vérités de la presse sont mal accueillies par tel ou tel responsable politique. Et déjà, ils font bien leur travail, ils vendent l'image du pays en fonction de ce qui est positif, mais il faudrait que l'État congolais assure un bon traitement aux journalistes, même dans la divergence des points de vue, pour que du choc des idées puisse jaillir la lumière. Merci beaucoup, Didier. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour aussi à notre invité.
Donc vous avez suivi notre ami Franck. Quel est votre point de vue par rapport à ces rôles que la presse doit jouer?
Mon point de vue par rapport au rôle que la presse doit jouer, la presse doit être dans un environnement meilleur pour jouer un bon rôle qui lui est dévolu. Alors pourquoi je dis un environnement meilleur? Il faut que d'abord qu'on commence à dépénaliser les délits de presse. Puisque la presse a une corporation. Une fois qu'on dépénalise les délits de presse, ça donnera la liberté aux journalistes de traiter bien les formations et de la diffuser. Aussi longtemps que les journalistes sont toutefois intimidés par ces délits de presse, le travail ne sera pas bien fait. Ils chercheront à satisfaire le pouvoir, peut-être pour qu'il n'y ait pas de poursuites derrière eux. Alors, lorsqu'on dépénalise ces délits de presse et qu'on donne la responsabilité à la corporation qui n'est autre que l'UNPC de sanctionner les journalistes par rapport au règlement d'ordre intérieur, au règlement de, par rapport à leur statut, à ce moment-là, ça ira. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut qu'on donne l'accès, qu'on permette l'accès libre de tous les journalistes à l'information, que ce soit à la présidence, que ce soit au gouvernement, que ce soit au parlement, que ce soit au gouvernement provincial, que ce soit dans tous les domaines domaines de la vie, que les journalistes aient l'accès libre à l'information. À ce moment-là, les journalistes vont transmettre fidèlement les informations qu'il a acquises. Une fois que le journaliste est offusqué à accéder à l'information, cela pose un problème. Troisième préoccupation, il faudrait que les journalistes et le gouvernement puissent financer la presse. C'est un des prescrits de la Constitution. Or, jusqu'à présent, du contraire, la presse n'est pas financée. Vous voyez comment est-ce que nos journalistes sont en train de peiner dans leurs travaux. Et que peut faire un journaliste lorsqu'il n'est pas payé, lorsque sa maison de presse n'est pas financée par le gouvernement? C'est à donner au coupage, à ce qu'on appelle Kawama, au communément, à l'Oumbashi. À ce moment-là, le journaliste est exposé à la corruption par n'importe qui. Et surtout que le chef de l'État a insisté avant, pendant et après les élections. Vous voyez qu'à ce moment-là, ceux qui sont candidats doivent déployer beaucoup de moyens, vont consacrer beaucoup de dépenses, peut-être pour corrompre ces journalistes qui vivent dans des conditions inhumaines, monsieur le journaliste. Alors, par rapport à ça aussi, monsieur le journaliste, il faudrait que la corporation aussi songe à des formations des journalistes, à des séminaires de formation des journalistes, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se réveille le matin, il se substitue un journaliste. Journaliste dans une chaîne quelconque, journaliste dans une presse écrite quelconque. Mais il n'a pas cette déontologie des journalistes, il n'a pas cette formation des journalistes. Ça pose aussi un problème. À ce moment-là, lui, il est appelé à transmettre n'importe quoi sur le truc, sans pour autant même censurer l'information s'il est faux. Avec tout ce préalable que je viens d'évoquer, à ce moment-là, on peut avoir une presse qui transmet des informations fiables et viables.
Merci.
Et au-delà de ça, monsieur le journaliste, la corporation des journalistes qui n'est autre que l'UNPC. Il y a aussi d'autres corporations qui, à l'instar de cette corporation-là, les G, des consorts, qu'on leur laisse aussi la tâche facile d'accéder aussi à l'information. Et lorsque on traite des informations, il ne faudrait pas que le pouvoir puisse avoir une presse de sa tendance, par exemple à la chaîne officielle, pour y accéder. Je vois qu'il y a la politique de deux poids deux mesures. S'il s'agit du pouvoir, là, on donne un large espace là, aux gens de pouvoir de s'exprimer. Il y a même, on peut même faire un rapport aussi, c'est ça qui est là pour l'encadrement des journalistes. Mais la CESAC là est en train de punir peut-être seulement les gens de l'opposition, les gens qui émettent des avis contraires. Là, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait aussi des sanctions objectives, des sanctions. C'est un peu ça, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous avez proposé des pistes et des solutions pour faciliter à la presse de faire ses travaux. Il faut d'abord arriver à dépénaliser les délits des presses, parce que beaucoup de gens sont exposés aujourd'hui, et dans ces conditions, il sera difficile qu'ils puissent faire leur travail comme quatrième pouvoir. Vous avez évoqué l'accès libre à l'information. Il faudrait que les journalistes soient en mesure d'accéder à la bonne information pour pouvoir la transmettre. Il faut le financement de la presse, il faut la formation, le renforcement des capacités, mais permettre aussi aux ONG qui font le monitoring sur la liberté de la presse de pouvoir travailler librement, mais aussi un accès équitable aux médias publics. Voilà autant de pistes de solutions pour arriver à permettre à la presse de faire son travail selon le souhait exprimé par le chef de l'État. On va écouter Dieu Merci, qui est à Manono, dans la province du Katanga, revenir dans ce studio pour que notre invité puisse se placer les mots. Dieu Merci, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Et vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que la presse arrive à jouer efficacement ses rôles de quatrième pouvoir?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Merci à notre invité. Moi, ce que je vais dire, Pierrot, c'est quoi? C'est juste vous dire, remercier d'abord le chef de l'État de pouvoir penser pour le média comme un quatrième pouvoir. Mais ce que je vais demander, M. Poirot, si le chef de l'État a reconnu et a cédé une partie du pouvoir aux médias, de pouvoir accompagner les élections apaisées dans notre pays, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir comment orienter ces médias. Si le média est mal orienté, ce média va créer des détresse dans le pays. Voilà pourquoi je veux dire, Pierrot, laissez la presse de bien jouer son rôle et octroyez à cette presse la liberté de fonctionner. Car, Pierrot, le premier rôle du journaliste, nous devons savoir, c'est de témoigner la vérité. Mais si cette vérité du journaliste, chaque fois, il ne se retrouve pas dans la liberté de dire la vérité, vraiment, ça sera toujours une détresse, Pierrot. Même si vous êtes à la radio Capi là-bas, et lorsque vous avez peut-être une immunité de parler un peu de vérité, voilà, vous donnez la parole à la population congolaise. Mais si tous les journalistes du Katanga, du Bas-Congo, Bandundu, du Kasaï, n'ont pas cette liberté vraiment de s'exprimer, de parler la vérité, vraiment n'auront pas accompagné les élections, mais auront attiré une détresse. Ensuite, je vais terminer par émettre une crainte, Pierrot, du fait que beaucoup de maisons de presse dans notre pays sont déjà souillées. Face à l'argent, il y a une impuissance totale. Il y a une impuissance totale. Vous trouvez un journaliste qui s'est fait corrompre moyennant même 5 000 francs congolais. C'est le journaliste qui va battre maintenant la campagne, soit pour un candidat, soit pour... Vous voyez que tout ça, ça pose des problèmes. Ça ne va pas permettre à ce journaliste de jouer les élections dans le pays.
Merci beaucoup, Dieu merci. Vous avez pensé et insisté beaucoup sur la liberté de former, de travailler. C'est cette liberté qui va permettre aux journalistes de pouvoir accompagner les processus électoraux d'une manière apaisée, mais aussi les conditions de travail qui peuvent permettre aux journalistes d'être assez indépendants dans sa manière de voir et de faire. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Joseph Alain Kabongo, vous avez suivi les compatriotes plusieurs pistes de solutions pour arriver à faciliter à la presse de jouer ses rôles avant, pendant et après les élections. Il y a même notre ami qui a dit que ça doit être un travail permanent et en proposant autant de pistes de solutions.
Oui, les solutions proposées par les auditeurs, la plupart des solutions tournent autour de l'exercice même de la liberté de presse. Comment les journalistes doivent exercer la liberté de presse? Dans quelles conditions on met les journalistes pour réellement exercer cette liberté? Vous savez bien que la liberté de presse, c'est un corollaire d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Dans ce cas, on s'exprime librement sur un support qui peut être un micro, un journal écrit ou la télé devant l'effet de projecteur ou la presse en ligne. Donc, c'est les conditions d'exercer cette liberté. Donc, toutes ces interventions ont tourné autour de ces conditions. On a parlé de l'accès à l'information. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a toujours pas cette loi d'accès à l'information et laquelle loi traîne toujours dans les tiroirs du Sénat. Alors que la session parlementaire a pris fin, le Sénat a reçu cette loi, elle a été endossée par un sénateur et l'examen, on n'a entendu rien. On ne sait pas si à la prochaine session, cette loi y sera inscrite. Et le problème d'accès à l'information, c'est une réalité et c'est depuis des années. Vous savez, il y a toujours un journal satirique qui paraît ici à Kinshasa les Grognons. Quand il vous dessine l'accès à la source d'information, vous trouvez un crocodile qui a écaillé et écarquillé sa gueule pour dire que quand vous allez vers les sources d'information ici, vous trouvez un grand crocodile qui risque de vous broyer. Donc vous comprenez que les conditions de travail du journaliste, c'est d'abord garantir cette liberté. Et une fois que la liberté est garantie, les journalistes se sentent libres et dans des conditions de bien pouvoir travailler, de donner réellement la bonne opinion. actuellement sans ces conditions. Il suffit de critiquer et après il y a une autorité qui vous appelle. Vous savez que tout dernièrement, plusieurs médias ont été fermés à Mwanda. Juste parce qu'ils ont véhiculé une information qui était connue de toute la ville. Et vous savez, quand ces médias ont été fermés, c'est un média qui répond aujourd'hui, l'autre qui répond, et le tout dernier radio communautaire Mwanda pour répondre, c'est ça qui doit autoriser. Alors que celui qui a fermé, c'était un chef des renseignements local. Vous comprenez déjà les procédures. Les autorités ne respectent pas la loi. Pourquoi est-ce que le CESAC peut avaliser cette démarche d'un chef de poste local de la mer? Ça n'a pas de sens. Donc, la liberté de presse dans notre pays, pour s'exercer normalement, il faudrait d'abord que les autorités commencent à respecter nos propres lois. Mm-hmm. Les médias publics, l'accès aux médias publics aujourd'hui, mais c'est un casse-tête. Les médias publics sont confisqués par une poignée d'individus. Avez-vous vu combien de fois des partis d'opposition, même des reportages qui passent sur les médias publics, on montre des reportages sur un parti d'opposition, un leader d'opposition qui a été dans telle ou telle autre province? Non. Tout tourne qu'autour de la plateforme du chef de l'État. Ce n'est pas normal. C'est un média public. Ce média fonctionne grâce aux impôts payés par les contribuables congolais. Mais c'est une poignée d'individus qui a confisqué ça. Donc c'est un problème. Les auditeurs ont également parlé de prendre des moyens. Oui, la presse congolaise a un problème, elle n'a pas de moyens. L'aide à la presse, c'est légal. Mais le problème, vous savez qu'en septembre 2014, les ministres, le ministère de la communication et des médias a donné à quelques responsables de médias des billets verts. Soit disant qu'il s'agirait de l'aide, c'est pas direct ou indirect à la presse, mais c'est quel média? Les médias de Kinshasa ou de l'intérieur? Mm-hmm. Et combien, ce qui m'a toujours fait mal, aucun média n'a eu le courage de demander combien le trésor public a sorti au cours de l'année 2014 pour que les médias se retrouvent avec...
C'est pour ça que tout à l'heure nous avons évoqué la responsabilité de médias eux-mêmes dans cette bataille pour arriver à bien fonctionner, à bien travailler, à la liberté. C'est aussi ça, mais vous vous inquiétez que quelques personnes reçoivent l'argent, soi-disant l'aide indirecte ou directe à la presse, mais bon, les médias eux-mêmes ne posent pas des questions de savoir combien ça représente quoi aujourd'hui l'aide prévue par la Constitution pour la presse. C'est dans la responsabilité des médias eux-mêmes.
Et c'est une aide qui a fini dans les poches des individus. Alors que nous, par exemple, dans notre vision, nous avons toujours pensé que l'aide à la presse devrait servir à toute la presse. Par exemple, dans l'achat d'équipements, vous voyez ici l'équipement avec lequel la presse travaille, c'est un équipement vétuste. Les imprimeries que l'on trouve ici à Matongé, à Victoire, c'est des choses qui datent des années 1800. Donc, l'argent de l'État pouvait servir à acheter des imprimeries modernes. Kinshasa, ici, une grande ville, manque même un centre de presse. C'est normal. Ce type de fonds pouvait servir les médias autrement que de finir dans les poches des individus et gérer aussi dans la plus grande opacité. La bonne gouvernance que l'on prône, on devrait quand même nous dire que non, pour l'année 2014, le gouvernement a sorti 500 000. Et sur les 500 000, le Congo compte autant de médias. Et sur autant de médias, la distribution se fera de telle manière. Non, c'était juste un coup de fil, vous passez là, et l'argent, ça se sort, et puis on signe, on pose pas, mais ça devait me revenir. Personne ne pouvait poser cette question. C'est parce que la presse aussi n'a pas de moyens. Quand tu vas poser la question, savoir, mais combien l'État a décaissé pour nous, on dit, non, mais si tu ne prends pas, allez, tu rentres. Et c'est comme ça qu'un éditeur, un auditeur s'est même plaint qu'il y a des journalistes qui se font corrompre même avec 5000 francs. Donc la presse est mise dans une situation telle qu'elle ne peut pas bien travailler. Elle est vraiment dans une situation de misère. Donc l'État devrait également favoriser ces cadres, je ne sais pas s'il faut dire les cadres macroéconomiques, pour que ce soit aussi profitable aux médias.
Voilà, mais il y a un autre maître sans ville qui est revenu sur la bagarre autour de la dépénalisation des luttes de presse. On sait que c'est une lutte de longue durée et dans ces conditions, il est difficile avec notre loi actuellement que les journalistes soient à l'abri, quand bien même ce qu'il a écrit, c'est la vérité, vous savez ce que la loi dit, c'est ça, il est exposé quand bien même les faits sont vrais.
Oui, la dépénalisation, bon, moi personnellement, j'aime pas utiliser les termes dépénalisation. Je vais plutôt parler juste de la suppression de peine privative de la liberté de presse. Parce que la dépénalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peine. Mais dans les démarches, dans tous les motifs qui ont été faits pour créer un cadre juridique de dépénalisation des libres presse, c'est-à-dire qu'on veut juste supprimer les peines privatives des libertés, on garde juste les amendes. Quand un juriste paye l'amende, c'est une peine. Donc, parler de dépénalisation, je trouve que c'est un peu exagéré, mais on voudrait juste supprimer les peines privatives des libertés. Et on garde peut-être les peines d'amende si ça peut dissuader une presse. Mais je me dis d'abord, cette presse qui manque de moyens, quand vous devez la câbler des amendes, mais elle finira par fermer. Donc, la lutte aujourd'hui, c'est arriver à avoir ces cadres juridiques où on doit instituer ce régime qui veut que les journalistes ne peuvent pas être incarcérés juste parce qu'il a émis des idées. Mais qu'on pouvait, les tribunaux pouvaient prononcer des peines d'amende contre les médias ou les journalistes.
Il y a cette question, avant d'écouter Félicien, Ernest Aigu qui est à Likassi, cette question par rapport à la responsabilité de médias dans la formation, parce que Maître Sonville l'a évoqué, pour permettre aux journalistes eux-mêmes de travailler plus dans le professionnalisme, c'est aussi une responsabilité des corporations.
Oui, mais les journalistes congolais suivent des séminaires de formation. Il y a aussi organisé, je crois que toutes les organisations professionnelles ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur, même des organisations internationales viennent ici, organisent des formations sur la déontologie. Je ne crois pas qu'il y ait un journaliste congolais qui nous dira qu'il n'a jamais lu le code d'éthique et de déontologie. Le problème, c'est la société. La société congolaise a ses problèmes. Ce sont des problèmes d'ordre général. Ça ne regarde pas que le média, la corruption, on la déplore dans plusieurs secteurs. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les journalistes se sentent dans cette insécurité. Ils ne savent pas travailler dans de très bonnes conditions. D'abord, quand un journaliste travaille bien, il est sanctionné, par exemple, par la structure publique des régulations. Quand un journaliste travaille très bien, il confronte, il croise les deux sources, mais il est sanctionné par la structure publique des régulations, disons, même si ces derniers avaient réussi des formations, je me dis, comment est-ce qu'il peut travailler? Donc, moi, je pense que c'est au pouvoir public, d'abord, de permettre aux jeunes de travailler dans les meilleures conditions. Et après, les journalistes feront un effort au niveau, à son propre niveau, et parfois au niveau de sa rédaction, et au niveau même de la corporation, pour respecter les règles même du métier. Mais je pense que les pouvoirs publics doivent donner d'abord l'exemple. Ne demandons pas seulement aux journalistes, mais d'abord que les grands signaux commencent par les pouvoirs publics, comme les chefs de l'État disent, travailler dans l'impartialité, dans la neutralité. Maintenant, laisser les journalistes, laisser les mains libres, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent critiquer, qu'ils puissent donner des opinions, qu'ils puissent faire des commentaires sans être inquiétés par ce que ce soit.
081-890-7315. Félicien, vous êtes avec Monsieur Kinshasa, bonjour. Voilà, on vous avait suivi les uns et les autres. Comment arriver à faciliter à la presse de faire ses travail comme capitaine pouvoir dans la neutralité, comme l'a souhaité le chef de l'État?
L'invité nous a déjà aidé, il a déjà parlé de tout ce qu'il fallait. Moi, ce que je veux dire, c'est de voir un peu l'évolution de la presse chez nous. Quand vous prenez les époques de l'indépendance, comment est-ce que les journalistes, à quel niveau était la liberté de la presse? Nous sommes entrés dans la Deuxième République, et à quel niveau nous étions, et personne ne pouvait parler et tout ça. Et le 24 avril 1990, on a libéralisé, mais nous avons vu que la presse avait pris vraiment une vitesse de croisière et la liberté était vraiment presque garantie, comme dans d'autres pays. Nous avons vu vraiment une presse qui était vraiment à l'aise pour parler. Les jeunes gens à la radio, à la télévision, comme les dimanches à Wembi, les Poutubidouaya, pour ne citer que cela, ils n'avaient pas peur de parler, de dire la vérité. Et la presse écrite était là pour dire toute la vérité. Puis après un moment, on constate qu'aujourd'hui, dans la Troisième République, il y a une régression. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous disons nous sommes un État, hier nous étions dans un État dictatorial et aujourd'hui nous sommes dans un État démocratique. Mais la démocratie doit s'accompagner de tout ce qui est démocratique, comme partout ailleurs. Si on veut que la presse soit impartiale, mais qu'on laisse la presse, comme dans tous les pays démocratiques, que la presse nous informe. Parce que quand on bloque l'information, et les journalistes n'ont pas accès à l'information, les journalistes ne peuvent pas dire même des choses qu'on dit ailleurs et qui ne posent pas problème. Ici, chez nous, ça pose problème, on envoie les journalistes en tôle, on fait ceci, on fait cela. Mais ce sont les pouvoirs publics plutôt qui sont à la base de l'impartialité de la presse. Alors, les gens sont obligés d'aller mentir, de les faire dire cela. Et nous, chez nous, même les hommes politiques, des grandes personnalités, ils peuvent mentir. Et quand les journalistes, maintenant, disent la vérité sur ces mensonges, il a un problème. Moi, je crois que nous devons assumer notre démocratie, si nous sommes un État démocratique, laisser la presse agir comme partout ailleurs. Et nous n'aurons plus de problèmes, parce que ça ne peut pas être seulement pour les élections, mais ça doit être permanent.
Merci beaucoup, Félicien. La liberté doit être permanente. Le travail de la presse ne doit pas être seulement lié aux élections, mais vous estimez qu'il faudrait que nous puissions assumer la démocratie et permettre à la presse de pouvoir accompagner celle-ci en toute liberté. Et puis, c'est de cette façon que la presse va travailler dans la neutralité comme partout ailleurs. Merci beaucoup, Félicien. Ernest, vous êtes à Matadi, dans le Congo central. Bonjour, Ernest.
Bonjour, Pierrot.
Et on vous écoute, Ernest.
Merci bien. Je dis que la presse, pour moi, c'est l'œil dans un corps humain. Sans presse, le corps sera dans l'obscurité et dans les ténèbres. Aujourd'hui, la presse congolaise a son histoire très riche et a connu les hauts et les bas. On ne doit pas considérer les journalistes comme un petit enfant qu'on doit guider à tout moment. Les formations, les recyclages, les mises à niveau, c'est très bien. Mais lorsque aujourd'hui, les médias sont devenus comme les églises, comme les écoles qui naissent à tout instant. Et la multiplication des presses, des organes des médias, parfois même avec le pouvoir, tout comme l'opposition, on multiplie les médias sans tenir compte des programmes et des besoins de la société congolaise. C'est pourquoi nous attirons l'attention de tous ceux qui sont dans ce métier des médias, d'être l'œil du corps, d'être des hommes qui doivent lutter contre l'ignorance et l'obscurité dans l'information à donner à la population. De cette façon, on n'aura pas à caricaturer l'information qui sera teintée de périodes, c'est-à-dire pendant l'élection. Même s'il y aura une type d'information par période, mais que le journaliste soit considéré et se considère lui-même comme responsable, qu'il prend à cœur son métier, parce qu'il va nourrir ses enfants, sa famille et toute la nation. Il contribue pour toute l'humanité. Pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'humanité qui fait son travail. Je crois que s'il le fait de cette manière, il n'y aura pas de recommandation des chefs de l'État pour dire « faites ceci et faites cela ». Ce sont ces gens des directions qui prouvent que la presse n'est pas libre, la presse est mijotée à tout instant lorsque tel ou tel autre est au pouvoir. Merci pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Ernest. Vous estimez que ce soit le média qui ils sont à l'initiative du pouvoir ou des hommes politiques qui ont choisi d'œuvrer dans la majorité ou ceux qui sont dans l'opposition, il faudrait que ces médias tiennent compte de besoins réels de la population et leur permettre de faire ce travail. Mais vous avez évoqué la conscience de médias en tant que l'œil dans la société. Il faudrait les faire de cette façon, que ce soit pendant la période des élections ou à tout moment. Merci beaucoup, Ernest Gu. Vous nous appelez des Likassi dans la province du Katanga. Bonjour, Gu.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Gu. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la presse joue ses rôles d'une manière efficace?
D'entrée de jeu, il faut retenir que le discours qui a été prononcé par le président de la République, il faut prendre ça dans quel cadre ce discours a été prononcé. Il est vrai que les journalistes ont été invités par le président de la République. Notons que la plupart des médias qui sont nés ou créés ici à la République démocratique du Congo, pour quel objectif? La plupart, c'est pour la propagande de tel ou tel politicien. Prenons ça, que ce soit à Likassi, à Kinshasa, à Lubumbashi, peu importe partout. Ces médias sont créés par qui? Dans la plupart des cas, ce sont les politiciens. Et vous vous attendez à quel genre d'idéal? si un politicien crée une chaîne de télé ou une chaîne de radio, donc il faut comprendre que même les gens qui travaillent dans ces chaînes de radio ou de télévision sont liés à un certain objectif qui est la propagande. Même s'ils font le porte-voix, même s'ils ont de belles idées, ils sont liés, ils sont dans un système, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce système-là. Ça, c'est un. De deux, quand ils ont été invités, bon, nous comprenons que c'est pour les contestations, tout ça, de tout ce temps, est-ce que le pouvoir en place ne voyait pas que le média fonctionnait mal? Aujourd'hui, il faut poser la question, où est Safou? Où est Safou? Au jour d'aujourd'hui. Donc nous comprenons que tout ce qui se passe ici, même le président, toutes nos autorités savent que le pouvoir, le quatrième pouvoir, n'exerce pas son pouvoir, permettez la pathologie, n'exerce pas ce pouvoir comme il devait le faire de tout ce temps. Par conséquent, nous disons, la formation c'est bien, mais on doit laisser ces chaînes libres, créées par des gens qui sont voués par l'esprit la créature. De pouvoir amener ce quatrième pouvoir à être existant ici à la République démocratique du Congo. Pour que, le fait que je dise, voyez la RTC, du matin au soir, si vous êtes là, par moment, on ferme, on tape, on va un peu ailleurs. J'ai vu la fois passée, si c'est quelqu'un du pouvoir, même quand le président de la République reçoit les gens là-bas, si c'est quelqu'un du pouvoir, on peut chanter, on peut faire valoir tout cela. Mais si c'est quelqu'un de l'opposition, non, par moment, on fait comme si de rien n'était, on peut passer par un bon pour quelques secondes seulement. Bon, on peut comprendre à partir de là. Si le président lui dit, bon, coup de chapeau, mais est-ce qu'on va tenir compte de tout cela? Est-ce que c'est créé par le pouvoir lui-même qui demande cela ou cela était à dessein, je ne sais pas, si eux-mêmes pouvaient expliquer. Moi, je pense que c'est la petite contribution qu'ils pouvaient donner à cette émission, d'autant plus que vous avez un caractère un peu indépendant et aussi éducatif.
Merci beaucoup, Guy. Vous êtes à Likassi. Vous avez insisté sur la création elle-même de maisons de presse. Vous avez dit des chaînes des radios et des télévisions aujourd'hui. La plupart sont l'initiative, n'est-ce pas? Ils sont initiés par les hommes politiques à défendre des propagandes. Et alors, que va faire le journaliste qui travaille dans un organe où il sait déjà qu'il a été créé par un politique pour raison de propagande? Et ça devient très difficile dans ces conditions. Qu'il puisse travailler dans la neutralité. Et puis, vous êtes aussi revenu sur l'accès équitable aux médias publics, que ce soit pour l'opposition, pour la majorité. Merci beaucoup, du maître Trésor Likonza. Vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Vous avez suivi les uns et les autres en temps vers la fin de cette émission. On vous écoute, maître Likonza.
Bien, merci. Je pense que l'appel du président de la République vaut son pesant d'or. Mais si vraiment on va critiquer, reprocher, accuser, voire même prendre à partie les journalistes, je pense que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes que nous connaissons dans les secteurs médiatiques dans notre pays. Le problème aussi, c'est que si on s'en tient même à l'ordonnance loi portant statut des journalistes congolais, on serait loin de parler des journalistes, puisque les deux caractéristiques permettant de définir légalement les journalistes faute défaut. Une de ces caractéristiques dit il faut que les journalistes tirent l'essentiel de ses revenus de sa profession. On est loin dans notre pays d'arriver à réaliser cet objectif. Et en plus de cela, dire que les journalistes doivent travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est une très bonne chose. Comme j'ai dit là, c'est très important. Mais aussi et surtout, il faudrait que la nation puisse consentir des subventions aux médias pour permettre aux journalistes de se libérer de l'emprise même de certains acteurs politiques qui les confisquent pour leurs propres intérêts, pour les intérêts parfois égoïstes. Et le comportement des journalistes cherchant à se tirer les lucres influe sur les comportements, les rapports entre les citoyens dans la société. C'est pourquoi, moi, je propose que pour arriver à matérialiser ou bien à réussir la mission ou bien à matérialiser la pensée du président de la République, il faudrait que les journalistes au-delà de ce qu'il exige souvent, parce qu'on ne va pas voiler se voiler la face. Il y a des journalistes proches du pouvoir, proches de l'opposition, et des journalistes qui se disent centristes. Il faudrait que les journalistes s'accordent à convoquer les nouveaux états généraux de la presse sous le financement particulièrement du président de la République, en vue de se dire certaines vérités, de discuter sur un certain nombre de points, bien avant même les élections, afin de créer, de doter le paysage médiatique congolais d'une vision commune par rapport à la tenue des élections.
Merci beaucoup.
Cela permettrait aux journalistes de bien travailler et de répondre à la participation du président de la République.
Merci beaucoup, Maître Likonza. Vous estimez qu'il y a aussi la bipolarisation dans la conception même du travail que font les journalistes même aujourd'hui. C'est qui se disent plus proches de l'opposition ou de la majorité ou les journalistes centristes. Vous estimez qu'il serait mieux de convoquer encore d'autres états généraux de la presse pour qu'ils se mettent dans une vision commune avant les élections. Merci beaucoup, Maître Likonza, ingénieur Mangoyo. Vous nous appelez des Kinshasa. Vous nous avez rejoint dans cet échange vers la fin de cette émission. Vous êtes avec nous. Votre point de vue.
Merci Pierrot pour la parole. Je crois que je ne serai pas long. Je crois que Pierrot, moi je salue notre presse. Je crois que si on compare notre presse par rapport à la Seconde République, je crois qu'il y a eu des avancées. Mais il y a quelque chose qu'il faut déplorer. Moi je voudrais d'abord savoir où commence le pouvoir, les prérogatives de ces sacs et où ces prérogatives s'arrêtent par rapport au gouvernement et surtout au ministère des médias. Parce que ce que je viens d'entendre, Pierrot, à propos de la réouverture de la chaîne de la télévision catholique, moi, ça m'étonne. Comment le ministère des médias écrit au CESAC, enfin, écrit, c'est pas moi qui, on réserve copie au CESAC, sur base cette copie-là, répercute auprès de la radio de la chaîne et on ouvre la chaîne. Non, mais je comprends pas comment ça se passe. Il faut qu'on nous dise exactement à quoi sert le CESAC, quel est le véritable rôle de CESAC. Mais par rapport au travail que cabattent nos journalistes, moi j'apprécie, vous vous souvenez, Pierrot, à la Seconde République, il y a un journal, pour ne pas les citer, Jeune Afrique, qui avait une presse telle que si vous n'achetez pas, vous ne serez pas bien informé, objectivement. Mais aujourd'hui, c'est tout le cas. Cette revue-là, aujourd'hui, n'a plus la même audience qu'elle avait à la Seconde République. Tout ça, c'est parce que, justement, nos journalistes essaient de faire très bien leur travail, mais ils sont gênés par le politique. Et ça, c'est clair, ça. Ils ne sont pas accompagnés. Mais si on essaie de faire la démarcation, je crois que, au lieu, chaque fois, de fermer les chaînes, ils doivent supporter la critique. Il y a aussi la notion des droits de réponse. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, au lieu de fermer tempestivement, moi, Pierrot, je n'arrive plus à suivre les émissions. Lorsqu'on a fermé pratiquement toutes les chaînes qui essayaient de faire le contrepoids, moi, je n'étais ni disques compacts. Je ne suivais plus les émissions parce que c'était vraiment indigeste. Soit on vous offre de la musique, des publicités, tout ça. On passait du temps.
Merci.
Moi, je crois que la presse.
Merci beaucoup, ingénieur.
Je crois qu'il faut encourager ça.
Merci, ingénieur Mangoyo. Vous êtes revenu sur les responsabilités du CESAC et du ministère de la Communication et Médias. Je crois que le débat, plusieurs fois, on est aussi revenu dans la parole aux auditeurs quand il fallait mettre en place le CESAC, la loi, que doit faire le CESAC, que doit faire le ministère, qui doit en principe prendre la décision de fermer, de couper les signaux. Voilà, autant ces questions, vous souhaitez que ça soit vraiment clarifié pour permettre à vous, les consommateurs de médias, de savoir ce qui se passe. Mais vous estimez que déjà, le média font leur travail d'une manière correcte, mais il faut leur permettre d'aller plus loin et de les faire encore sans beaucoup de difficultés, ce qui a été souhaité par beaucoup de compatriotes dans cette émission. On revient à vous, Joseph Alain Kabongo. Vous avez suivi les uns les autres le débat, c'est pas le dernier autour de ce travail que doit faire la presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir, que ce soit pour la presse, pour la population qui a largement contribuer, mais aussi pour le pouvoir public, afin de conclure cette émission.
Oui, pour la presse, moi, j'ai l'exhorté juste à respecter les règles déontologiques, croiser les sources. Les juristes doivent croiser les sources dans le cadre de leur travail pour éviter d'être taxé, d'être membre de tel ou de tel autre camp, et les inviter à être encore beaucoup plus critiques et à braver la peur. Et aux instances de régulation, le CESAC, moi j'aimerais demander aux membres du bureau de CESAC de s'assumer, de cesser d'être inféodés aux autorités politiques et aux autres forces économiques. Et j'aimerais également demander au président de la République de faire cette démarcation, de démontrer, d'expliquer que la loi sur les CESAC prime sur la loi qui fixe les modalités d'exercice et de l'élevité de la presse. C'est-à-dire que la loi sur les CESAC abroge des dispositions, certaines dispositions de la loi de 96 qui donnait certains pouvoirs au ministère de la Communication et des Médias. Donc le ministère de la Communication et des Médias devrait accepter de laisser au CESAC faire son travail, en continuant tout le temps à prendre des décisions en lieu et place du CESAC. L'émissaire de la communication fragilise l'action même du CESAC. Mais la loi est vraiment claire. La loi sur le CESAC dit clairement que les dispositions antérieures, contraires à la loi sur le CESAC, sont abrogées. Donc, toutes les compétences qu'avaient les ministres de la communication dans les lois antérieures ont été abrogées. Il faudrait laisser au CESAC les mains libres, que le CESAC puisse travailler. Et il y a certaines autorités également, des autorités administratives qui ont cette habitude de couper les signaux des médias. Je me dis que ça sera encore pire avec la TNT. Vous savez qu'à la TNT, c'est plusieurs médias sur une fréquence. Je me dis que ça sera encore pire, plusieurs médias seront coupés. Donc, j'ai encore peur avec la TNT.
Merci beaucoup, Joseph Alain Kabongo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de l'Afrique en Afrique. Olpa, merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ce sujet autour du travail de la presse en tant que quatrième pouvoir. Hippolyte Kapanga a mis en nom de l'émission réalisée par Berry Franklin Louchaka. Firo et la musique vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulaba. Vous allez retrouver parole aux auditeurs sur www.radiogabi.com. On se retrouve demain à 10h30, heure de Kinshasa. Au revoir.